Et le journal est présenté par vous, Benoît Bouscarel.
Bonsoir. La Turquie pourrait-elle s'enfoncer dans une crise économique durable et potentiellement catastrophique? Aujourd'hui, la livre turque a perdu plus de 20% de sa valeur face au dollar et Donald Trump, dans la foulée, a autorisé le doublement des droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium en provenance de Turquie. Journée noire, récit d'Alexandre Billette et analyse d'Ahmet Insel dans ce journal. En Syrie, l'offensive d'Idleb se prépare dans le nord-ouest du pays. Ses prémices sont déjà engagées, mais ce sera une opération limitée, nous dira tout à l'heure le chercheur Fabrice Balanche, joint par Valérie Crova. En France, nouveau coup dur pour le Média, la web-télévision proche des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Son ancienne directrice et fondatrice menace de saisir la justice contre ses anciens collègues. Explication d'Antoine Marette. La Turquie en position ce soir économiquement très difficile. La monnaie du pays, la livre, a dévissé, effet d'un bras de fer engagé notamment avec les États-Unis et conséquence de réactions en chaîne que les discours du président Recep Tayyip Erdogan et de son ministre de l'économie très attendu n'ont visiblement pas permis d'arrêter. Le cours de la livre turque a perdu beaucoup au cours de cette journée noire dont Alexandre Billette nous fait le récit depuis Istanbul.
Sur Twitter, un mot-clé en tête de gondole en Turquie aujourd'hui, $6, puisque c'est la première fois qu'il faut 6 livres turques pour acheter un dollar, et plus de 7 pour acheter un euro. Et ce matin au réveil, les Turcs voyaient déjà leur monnaie fondre au soleil, en cause, entre autres, une déclaration de Recep Tayyip Erdogan dans la nuit. Ils peuvent avoir leurs dollars, nous avons notre peuple, notre droit et Dieu, fin de citation. Un commentaire qui n'a pas plu aux investisseurs quelques heures avant le discours attendu du ministre des Finances qui devait justement présenter son nouveau plan économique pour notamment redresser la devise déjà bien mal en point depuis le début du grand froid diplomatique entre Washington et Ankara. Et puisque rien ne va aujourd'hui, une autre déclaration du président turc a inquiété les marchés lorsqu'il a comparé la chute de la livre et la tentative de putsch. Bref, ne manquait plus qu'un tweet de Donald Trump. C'est ce qui est arrivé. Le président américain a déclaré avoir doublé les taxes sur l'acier et l'aluminium en provenance de Turquie. Bref, le discours du ministre est passé inaperçu. Aucune grande annonce d'ailleurs lors de cette présentation, ce qui a ajouté encore un peu plus de pression sur la devise. Ce soir, la livre turque vaut près de 20% de moins que ce matin face au dollar. Et rien n'indique que la chute est terminée.
Alexandre Billette. Alors la situation en Turquie est évidemment suivie de près par toutes les places boursières européennes dans la crainte d'une possible contagion, des banques occidentales étant exposées au risque turc. Mais quoi qu'il en soit, la situation est déjà très grave pour Ahmet İnsel, politologue et économiste turc. Il est également chroniqueur au journal Cumhuriyet. Au micro de Mathieu Laurent, il revient sur ses raisons profondes et sur son caractère désormais structurel.
Ce n'est plus une crise rampante. La crise du cours de la livre turque risque d'emporter dans les prochains jours des entreprises et des banques dans sa tourmente qui ont à peu près l'équivalent de 60% du PIB de leur dette en dollars.
C'est extrêmement grave.
C'est très très grave. C'est une vraie annonce de crise économique. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que le gouvernement ne donne pas l'impression d'avoir pris la mesure de cette gravité. Et Tayyip Erdogan, aujourd'hui, et son gendre à qui il a confié le Trésor, le ministère des Finances et l'ensemble des ressources publiques, a tenu un discours très lénifiant, comme si de rien n'était. Et plus Tayyip Erdogan et son gendre parlent, plus les opérateurs sont paniqués parce qu'ils ont en face d'eux une direction qui a l'air d'être déconnectée de la réalité.
À quelles conséquences s'attendre après la prise de parole du président Erdogan qui incite les uns les autres à acheter de la livre turque?
Il est possible qu'il y ait des réactions de fuite de plus en plus importantes vers les devises. Il avait déjà demandé il y a quelques mois, dans un élan nationaliste, de vendre les comptes en devises ou l'or maintenu à la maison. Il y a une perte fondamentale, irréparable, de confiance au gouvernement de Tayyip Erdogan sur la matière de politique économique, comme d'ailleurs sur les matières de droits de l'homme et ceux-ci vont ensemble. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus grave, c'est que les acteurs économiques commencent à s'inquiéter que le gouvernement turc soit obligé de prendre des dispositions de limitation de liberté de circulation des capitaux ou de blocage des comptes bancaires, etc. Je ne pense pas que le gouvernement sera capable de prendre ses dispositions parce que ça créera des effets encore plus de panique et plus importantes. Mais les acteurs économiques aujourd'hui craignent des mesures répressives, financières. Du coup, il y a une accélération, une fuite en avant.
Recep Tayyip Erdogan pointe un lobby des taux d'intérêt. Qui vise-t-il sans le nommer ?
Alors, il pointe le lobby des taux d'intérêt depuis 5-6 ans. Recep Tayyip Erdogan est un musulman pieux et il considère que Dieu a interdit le taux d'intérêt et par conséquent, Dieu a plus raison que les marchés financiers. Donc, du coup, il croit être dans le bon droit. Par conséquent, le lobby de taux d'intérêt, pour lui, ce sont les lobbies sionistes, les lobbies américains, le lobby maçonnique. Grosso modo, pour lui, qui gagne de l'argent part de l'argent. Et une des responsabilités majeures de Tayyip Erdogan dans l'évolution de l'économie turque vers cette crise, c'est justement son obsession anti-taux d'intérêt, mais obsession non pas économique, mais une obsession idéologique, une obsession religieuse contre le taux d'intérêt qui fait que il a empêché la Banque centrale il y a quelques mois, il y a un an plus exactement, à prendre des dispositions de taux d'intérêt devant la dépréciation de la livre turque et il a rendu les choses totalement irréparables aujourd'hui. Aujourd'hui, la Banque centrale augmenterait les taux d'intérêt d'une manière substantielle. Malheureusement, cela ne servira plus à rien.
Des propos recueillis par Mathieu Laurent. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence et à huis clos ce soir pour évoquer la situation au Yémen au lendemain d'une frappe aérienne probablement opérée par l'Arabie Saoudite qui a tué 29 enfants dans un bus à Hodeïda. L'ONU demande la mise en place d'une enquête libre et indépendante. En Syrie, l'offensive d'Idleb dans le nord-ouest du pays se prépare activement. Le régime de Bachar el-Assad n'en a pas fait mystère ces derniers jours par le biais de tracts largués par avion. Il a d'ailleurs appelé les habitants de la région à faciliter les opérations militaires. Après avoir vaincu un à un tous les foyers de résistance dans le pays, l'armée syrienne, aidée par les Russes et les Iraniens, se prépare à la prochaine et peut-être dernière bataille d'envergure de la guerre civile. Et d'après Fabrice Balanche, chercheur spécialiste de la Syrie, les opérations ont en réalité déjà débuté.
Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a de lourdes préparations d'artillerie contre les défenses rebelles pour les affaiblir, à l'ouest d'Alep, la région de Jebel Shagour et au nord de Hama. Ça sera une offensive limitée parce que je ne pense pas que l'armée syrienne ait les moyens et l'envie de reprendre la totalité de la poche rebelle d'Idleb, comme ça a été le cas pour Daraa. D'une part, parce que vous avez entre 50 000 et peut-être 100 000 rebelles dans cette poche, dont la moitié sont des gens liés à Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, renforcés par tous les rebelles qui ont quitté les postes reprises par l'armée syrienne ces derniers mois, donc des gens qui ne sont pas prêts à la reddition, qui sont prêts à se battre jusqu'au bout. Il y a des groupes comme les Ouïghours du parti du Turkestan islamique qui sont, eux, prêts à mourir en kamikaze. Donc je pense que l'armée syrienne va, dans un premier temps, se contenter de reprendre la moitié de la province d'Idleb, et notamment ces villes clés pour protéger Latakia, Hama et Alep, et laisser en fait la zone frontalière aux mains des rebelles et sans doute sous protection turque, parce que également la Turquie ne veut pas voir l'armée syrienne revenir jusqu'à sa frontière pour éviter d'avoir un nouvel afflux de réfugiés sur son territoire. On estime entre 1,5 million et 3 millions le nombre de personnes qui vivent dans cette poche d'Idleb, et les Turcs n'ont pas envie de les voir arriver. Et puis ensuite, que faire de ces groupes rebelles, de ces groupes djihadistes, de ces irréductibles? Personne n'a envie de les accueillir, évidemment.
Des propos recueillis par Valérie Crova. Au Zimbabwe, l'opposition à Emmerson Mnangagwa a bien, comme prévu, déposé un recours cet après-midi devant la Cour constitutionnelle d'Harare. Leur leader conteste les résultats officiels de l'élection présidentielle et, partant, l'élimination du challenger Nelson Chamisa du mouvement pour le changement démocratique. À l'instant, on apprend, d'après un ministre cité par l'AFP, que l'investiture d'Emmerson Mnangagwa est suspendue jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle. Le sort du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, évoqué cet après-midi entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Au téléphone, les deux chefs d'État ont joué leur rôle, pas plus. Le président français demandant de trouver de façon urgente une solution humanitaire, son homologue russe lui répondant qu'il s'engageait à répondre à cette demande. Oleg Sentsov, détenu en Russie, est en grève de la faim depuis près de 3 mois maintenant et son état de santé se dégrade dangereusement ces derniers jours. En Amérique du Sud, de nouveaux chiffres en provenance du Venezuela permettent de prendre encore un peu mieux la mesure de la dégradation de la situation économique et sécuritaire du pays. D'après l'ONU, depuis le début de l'année 2018, ce sont en effet désormais plus de 500 000 Vénézuéliens qui ont fui le pays, la misère et la répression, pour trouver refuge dans un premier temps en Équateur, où trois provinces viennent d'ailleurs de déclarer l'état d'urgence. On parle désormais d'au moins 2 millions de personnes déplacées. Écoutez sur ces chiffres le porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés, William Spindler.
Chaque jour, quelques 4 000 arrivent. Depuis le début 2018, plus de 500 000 Vénézuéliens sont entrés en Équateur via la frontière colombienne. La plupart de ces réfugiés ne restent pas dans le pays, mais continuent leur périple vers le Pérou, notamment, et aussi des autres pays, le Chili, l'Argentine, etc. En tout cas, on estime que quelques 20% d'entre eux restent en Équateur. La plupart des Vénézuéliens qui sont arrivés dans les pays voisins ont trouvé la solidarité de la part des autres pays, des communautés qui les ont accueillis. Au contraire, dans des autres régions du monde, l'Amérique latine a gardé ses frontières ouvertes à cet exode. Les communautés, parfois des communautés pauvres, dans des pays voisins, ont été très solidaires. Ils ont accueilli les Vénézuéliens. C'est très difficile d'avoir une idée exacte du nombre de personnes qui ont quitté. En Amérique latine, les gens transitent d'une manière beaucoup plus ouverte que dans des autres régions du monde. Aussi, les pays latino-américains ont ouvert la possibilité aux Vénézuéliens de trouver des formes de séjour. Au moins 2 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays à cause de la détérioration dans la situation de leur pays.
William Spindler du Haut Commissariat aux réfugiés répondait à Nadine Epstein. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé aujourd'hui la nomination de Michelle Bachelet au poste de haut commissaire aux droits de l'homme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait fait l'annonce de cette décision mercredi. Décision donc désormais officiellement ratifiée. En France, le média de nouveau dans la tourmente. Sa fondatrice et ancienne directrice, Sophia Chikirou, a annoncé cet après-midi son intention de saisir la justice face à des accusations de malversation, des accusations venues de ses anciens collègues du média qui lui reprochent d'avoir voulu partir avec une somme d'argent rondelette. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
On parle d'un virement de 70 000 euros demandé par Sophia Chikirou, mais bloqué par la banque.
67 146 euros précisément, un virement depuis Le Média vers Mediascope, une société dont Sophia Chikirou est l'unique actionnaire, la raison des prestations de direction, conseil et stratégique. Le problème, c'est que Sophia Chikirou se présentait comme présidente bénévole du Média, tout en se rémunérant en tant que consultante. Henri Poulain est cofondateur du Média, il fait partie de la nouvelle équipe de direction.
Moi, c'est peut-être la seule chose que je puisse lui reprocher, c'est d'être déclaré bénévole. Sophia a travaillé énormément, je peux en témoigner. Elle a porté ce média pendant près d'un an. Le média lui en est évidemment redevable et il était absolument naturel, normal, légitime qu'elle soit rémunérée pour le travail considérable qu'elle a fait. Moi, la seule chose que je me permets de lui reprocher, c'est d'avoir déclaré par ailleurs qu'elle était bénévole alors qu'elle ne l'était pas. Et c'est très bien qu'elle soit pas bénévole. C'est normal que travaillant autant, elle puisse obtenir une rémunération. Je crois que c'est juste une problématique d'affichage, en fait.
La journaliste Aude Lancelin, qui fait également partie du trio de tête, est beaucoup plus virulente avec Sophia Chikirou, qu'elle accuse d'avoir tout simplement voulu tuer le média avant de partir. Des salariés anonymes évoquent même des prestations sans réalité. De son côté, Sophia Chikirou, qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview, défend la réalité de ses factures. Face à la gravité de ses accusations, elle annonce qu'elle va saisir la justice et demander la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire et un audit pour, je cite, prouver sa bonne gestion.
Merci beaucoup Antoine Marette. Un temps plutôt ensoleillé demain, excepté sur les régions au nord de la Seine. Quelques pluies sont à attendre en matinée de la Bretagne aux frontières du nord-est. Les températures minimales descendront jusqu'à 6 degrés sur l'Auvergne demain matin. Les maximales, elles, seront comprises entre 23 et 29 degrés. Il fera jusqu'à 35 degrés au meilleur de la journée en Provence.